Vous écoutez, on lit pour vous.
La vraie vie des urgences. Un dossier de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 16 mai 2024 dans la presse. Les pompiers des urgences. Le patient s'excuse presque d'être venu aux urgences pour un mal de dos. Mais la douleur est intense. Il a du mal à marcher. Le docteur Mathieu Vincent, l'un des trois urgentologues en service à l'hôpital Charles Lemoine le soir, lui a fait passer plusieurs tests. Bonne nouvelle, ils sont tous négatifs. Mauvaise nouvelle, ça continue de faire mal. Il faudra traiter la douleur avec des anti-inflammatoires, puis de la physio. Le docteur Vincent lui suggère de faire le suivi avec son médecin de famille plus tard cette semaine. Avec le guichet d'accès à la première ligne, GAP, vous pouvez revoir un médecin de famille, lui dit le docteur Vincent. Ça ne marche pas, le GAP, répond le patient. Ouais. Si ça ne marche pas à nouveau, je vais être obligé de revenir aux urgences. Essayez quand même le GAP en premier. Avez-vous d'autres questions? Non, merci pour votre patience, monsieur. Durant son quart de 8 heures, le docteur Vincent verra une vingtaine de patients. Il traitera des maux de dos intenses, des chutes de tension, une gastro particulièrement virulente, des personnes âgées qui ont fait une vilaine chute, des pieds anormalement enflés, de la toxicomanie, du zona, des difficultés à respirer et bien d'autres problèmes de santé qui ne peuvent attendre. Le processus de diagnostic est très stimulant. Vous voyez de tout aux urgences, dit le docteur Vincent. Les patients sont traités selon la gravité de leur cas. Ils sont répertoriés en 5 catégories de priorité. Sur son ordinateur, le docteur Vincent voit l'évolution de tous les cas. Les plus pressants sont au haut de la liste du logiciel MedUrge, qui classe les patients en fonction du niveau de priorité et du temps d'attente. Les urgences, c'est intense. Les urgentologues sont des pompiers qui éteignent des dizaines de feux en même temps. J'y ai passé 12 heures sur 2 jours. Je ne me rappelle pas la dernière fois où je suis rentré du boulot aussi fatigué. Il y a toujours de l'adrénaline aux urgences, dit le docteur Vincent. On peut améliorer rapidement la condition de nos patients et être là pour les accompagner pendant un épisode stressant. On va aller voir si tout est sous contrôle au choc, me dit le docteur Mathieu Vincent. La salle de choc, c'est la plus stressante des urgences. C'est là qu'on traite les patients les plus mal en point. Il y a 7 lits pour les accidents cardiovasculaires, AVC, les crises cardiaques, les traumas, exemple accident d'auto, les allergies graves, les hémorragies, les infarctus aigus. L'objectif numéro 1, maintenir les patients en vie. Ceux dont l'état ne s'améliore pas rapidement sont transférés aux soins intensifs. Au choc, l'adrénaline monte encore plus, dit le docteur Vincent. Ce soir, l'adrénaline est dans le tapis. 3 patients viennent d'entrer d'un seul coup. 5 lits ont été occupés pendant plusieurs heures, ce qui est inhabituel. 2 médecins sont responsables du choc en alternance. Il y a 3 infirmières ici en permanence. Heureusement, tout est maîtrisé au choc. Le docteur Vincent retourne donc à sa tournée du reste des urgences, où il est chargé ce soir-là des patients en observation qui y sont alités. Ce soir, 1 patient sur 5 vu par le docteur Vincent aurait pu être traité par un médecin de famille si l'accès à la première ligne était plus efficace, estime-t-il diplomatiquement quand je lui pose la question. Ce n'est pas la faute des patients. Ça ne change rien à la qualité des services qui leur seront donnés. C'est un constat médico-administratif. Peu importe la gravité de leur cas, le docteur Vincent traite tous les patients avec bienveillance. Aux urgences, les gens sont vulnérables, fragiles. Ils ont besoin de recevoir des conseils médicaux, mais aussi d'être rassurés. Le docteur Vincent le fait avec un mélange de respect, de délicatesse et d'humour. « Vous allez avoir notre service 5 étoiles, » dit-il à un patient. « Je reviens dans 2 heures avec les résultats. »« Mais c'est un 2 heures d'hôpital, » dit-il à un autre patient. Ah, le fameux concept élastique du temps d'hôpital. Ce soir, un patient s'est tanné d'attendre. Quand le docteur Vincent revient avec ses résultats de test dans l'étang, la salle est vide. Le patient est retourné à la maison. Le docteur Vincent l'appelle. « J'ai vos résultats, » dit-il au patient. « Tout est correct. Le feu est éteint et le médecin de famille s'occupera du suivi. » Le docteur Vincent ne voit pas de patients qui ont une toux, un mal de gorge ou une otite. Quand il se présente aux urgences, ces patients-là, des P5 dans le jargon, sont réorientés dans une clinique de médecine familiale. À Charles-le-Moine, ils représentent entre 20% et 40% de la clientèle. Ça diminue le temps d'attente, dit Judy Lachance, assistante infirmière chef des urgences. Avoir davantage de personnel réduirait aussi certainement le temps d'attente. Ce soir, les urgences comptent 3 médecins sur 3, 23 infirmières sur 24, 10 préposés aux bénéficiaires sur 12 et 5 adjoints administratifs sur 6. Il manque donc 4 employés. C'est moins sécuritaire que si on est à effectif complet, dit Mme Lachance. Les urgences, c'est un travail d'équipe. Il a beau y avoir un médecin, si on n'a pas assez d'infirmières, de préposés et d'adjoints, on est beaucoup moins efficace comme équipe pour traiter les patients, rappelle le docteur Mathieu Vincent. Les urgences de Charlemagne sont parmi les plus grosses urgences du Québec, parmi les plus efficaces aussi. Au plus récent palmarès de la presse, Charles-le-Moine prend le 3e rang sur 15 urgences d'hôpitaux universitaires. Le temps d'attente moyen aux urgences au Québec en 2023-2024, 17h26, bien loin de la cible officielle de 14h fixée par Québec. La cible a été modifiée de 12h à 14h en 2021. Avec le vieillissement de la population, le docteur Vincent est conscient de tous les défis qui attendent le système de santé et ses urgences. On est loin de la cible de Québec, mais il y a tellement de choses qu'on a mises en place, dit-il. Sans ça, je ne peux pas imaginer où on en serait. 19h43. Temps d'attente moyen aux urgences de Charlemagne en 2023-2024. C'est plus long que la moyenne québécoise parce que Charlemagne traite la clientèle la plus lourde parmi les urgences au Québec. Environ 57% des patients aux urgences à Charlemagne sont hospitalisés, comparativement à une moyenne de 34% des patients pour l'ensemble des urgences du Québec. Bureaucratite aiguë. Allô, docteur Gosselin coordonne. Le téléphone de la docteure Sophie Gosselin sonne toutes les 2 minutes. Aujourd'hui, la docteure Gosselin fait partie des 4 médecins de garde durant le quart de jour aux urgences de l'hôpital Charlemagne en Montérégie. Elle agit comme médecin coordonnatrice, en plus de s'occuper des patients. Elle doit gérer les transferts et les problèmes administratifs. Et des problèmes administratifs, il n'en manque pas. Entre 2 patients, la docteure Gosselin marche vite et n'a pas de temps à perdre. Son rythme de travail est étourdissant. Elle sourit quand je lui parle de sa cadence plutôt intense. « Aujourd'hui, ce n'est pas une grosse journée, » dit-elle. Pourtant, les 43 civières des urgences sont occupées, il y a une 15aine de civières dans les corridors et une 40aine de patients dans la salle d'attente. Si ça roule relativement bien aujourd'hui, c'est que les autres départements de Charlemagne ont été capables de libérer des lits, ce qui permet de faire de la place à de nouveaux patients aux urgences. Aujourd'hui, la docteure Gosselin gère les transferts de patients tout en voyant le maximum de patients possibles entre 2 problèmes administratifs. 3 autres urgentologues voient aussi les patients. Une grosse partie de son travail ce jour-là? Trouver un médecin de famille ou un spécialiste à certains patients afin de leur donner leur congé et libérer un lit. Les urgentologues passent un temps considérable lorsqu'il faut organiser des transferts à l'extérieur de l'hôpital, dit la docteure Gosselin. Elle n'exagère pas. Un exemple. Une dame très âgée, atteinte d'un cancer, a été transportée aux urgences pour des symptômes d'accident vasculaire cérébral, AVC. C'est une fausse alerte, mais elle doit tout de même voir un autre spécialiste au CHUM. Ça tombe bien, elle est suivie en oncologie dans ce centre hospitalier. La solution est simple, la transférer au CHUM. Or, ce sera tout, sauf simple. « Ce n'est pas toujours rapide ni facile d'organiser un transfert au CHUM, » dit le docteur Gosselin. « On va voir combien de temps ça nous prendra aujourd'hui. » La docteur Gosselin passe finalement plus d'une heure au téléphone avec 5 personnes différentes pour régler cette question administrative. Les urgences du CHUM suggèrent un transfert vers un autre hôpital à Longueuil où il n'y a pas ce spécialiste en question. Après plus d'une heure à parlementer au cours de la journée, la docteur Gosselin a gain de cause. La patiente est transférée au CHUM. Enfin. Mais pendant qu'elle joue dans une scène digne des 12 travaux d'Astérix, la docteur Gosselin ne pratique pas la médecine. Ce n'est pas le seul cas de bureaucratie aiguë aujourd'hui. Dans une autre chambre, un adolescent qui a menacé de tuer ses parents attend de recevoir son congé. Il ne représente pas un danger immédiat pour eux, mais on ne peut pas le retourner chez ses parents. Or, la direction de la protection de la jeunesse, DPJ, ne veut pas venir le chercher. La docteure Gosselin discute au téléphone avec la travailleuse sociale qui est en contact avec la DPJ. On sent le découragement dans sa voix. Ce serait dommage de garder un patient aux urgences parce qu'il n'a pas d'autre possibilité d'hébergement, m'explique-t-elle. À ce stade, ce n'est plus une urgence médicale, c'est une question sociale. Notre service social à l'hôpital va faire les démarches pour que la DPJ s'en charge aujourd'hui. Les urgences, c'est un vrai camion de pompiers. On éteint le feu sans régler le problème à long terme. En fin d'après-midi, on a arrêté l'incendie. La DPJ prend finalement l'adolescent en charge. Un lit se libère donc aux urgences. Le temps de désinfecter la chambre, un autre patient l'occupera bientôt, avec un nouveau feu à éteindre. Question-réponse. La docteure Sophie Gosselin est urgentologue et médecin coordonnatrice aux urgences de Charlemagne et présidente du regroupement des chefs d'urgence du Québec. Le plus difficile dans votre travail? Avoir à pousser pour que le patient ait ce dont il a besoin. Ramer à contre-courant, ça use. Pourquoi les urgences? Quand j'ai commencé ma médecine, je ne voulais pas avoir d'attache, pas de liste de patients à moi. Je voulais faire médecin sans frontières, travailler à l'étranger. Je pensais faire mes 8 heures in and out aux urgences. Aujourd'hui, je suis très attaché à mon service d'urgence et impliqué dans le réseau. C'est un peu paradoxal. Question-réponse. Le docteur Mathieu Vincent, urgentologue à Charlemagne, urgentologue pédiatrique au CHU Sainte-Justine et membre du CA de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Le plus difficile dans votre travail? À cause de la congestion, on a parfois du mal à voir les patients rapidement. Quand il y a beaucoup d'attentes, c'est stressant, car l'état de certains patients pourrait s'aggraver pendant qu'ils attendent. Pourquoi les urgences? L'adrénaline. On peut améliorer rapidement la condition de nos patients et être là pour les accompagner pendant un épisode stressant. Note. Nous avons effectué ce reportage en respectant les droits des patients qui étaient tous au courant de notre présence et qui avaient l'occasion d'accepter ou non notre présence. Aucun détail personnel ne permet d'identifier les patients. C'était « La vraie vie des urgences », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot, paru le 16 mai 2024 dans La Presse.
Paix sociale à la Montréalaise, un texte d'Émilie Nicolas paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir. Alors que tous les yeux sont rivés sur le campement pro-palestinien à McGill, j'ai envie de vous parler non pas de ce qui se passe, mais de ce qui ne se passe pas à Montréal. Certes, l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël et les bombes qui n'en finissent plus de tomber sur Gaza ont élevé le niveau de tension intercommunautaire un peu partout dans la ville. Il suffit toutefois de se comparer pour prendre la mesure de la résilience particulière du tissu social montréalais jusqu'à présent. Il y a plusieurs pistes d'explication à ce phénomène. D'abord, ça peut sembler étrange à dire, mais la géographie de la ville nous aide. À Toronto, plusieurs des institutions phares de la communauté juive sont en plein centre-ville, sur les grandes artères qui balisent le parcours normal des manifestations. La situation donne lieu à des moments surréels que l'on s'est épargnés ici. Par exemple, lors d'une grande manifestation le 12 février 2024, le Spider-Man de Toronto, un peu l'équivalent de l'anarcho-panda du printemps étudiant de Montréal, était parmi la foule à escalader les édifices le long du parcours. Une fois rendu sur la University Avenue, le personnage anonyme a grimpé sur la façade de l'hôpital Mont-Sinaï avant de continuer son chemin. Des Canadiens d'origine palestinienne qui ont de la famille à Gaza ont pris la parole lors de cette manifestation alors que l'armée israélienne annonçait vouloir se lancer dans une offensive sur Rafah. Leur message n'a pas passé. Le lendemain, toute la classe politique canadienne était en train de dénoncer la présence de Spider-Man et de son drapeau palestinien sur un hôpital fondé par la communauté juive. Même le premier ministre Justin Trudeau a déploré sur X cette démonstration d'antisémitisme. Ce n'était pas la première affaire du genre. Parce que les manifestations se retrouvent parfois en face de leurs institutions, plusieurs membres de la communauté juive de Toronto sentent qu'on manifeste contre eux, personnellement, et non contre le gouvernement d'Israël. Les organisateurs se défendent, bien sûr, d'avoir de telles intentions. Après près de 7 mois de telles tensions, le dialogue social, là-bas, est devenu presque impossible. Par chance, à Montréal, l'hôpital général juif n'est pas sur la rue Sherbrooke et la plupart des écoles, des synagogues et des centres communautaires juifs de Montréal sont situés plus loin du cœur de l'action. On ne se pile pas sur les pieds de la même manière. On a fait aussi des choix tactiques différents de ceux d'ici. Là-bas, on a manifesté à quelques reprises contre des commerces qui ont des activités dans les territoires palestiniens occupés ou qui soutiennent financièrement l'armée israélienne et qui sont par ailleurs dirigés par des personnes juives. Alors que, d'un côté, on voit dans ces gestes une dénonciation politique de ce qui est perpétré par Israël, de l'autre, on ne voit là qu'une forme de pogrom. Là aussi, tout le monde est à cran. Plus qu'ici. À Montréal, le plus important édifice à avoir été ciblé de la sorte est celui de Radio-Canada, qui a fait l'objet de graffitis dénonçant une complicité avec le génocide en novembre 2023. Le débat sur l'antisémitisme ne fait pas écran au message des manifestants de la même manière. Je ne veux pas non plus peindre un portrait trop rose de notre situation. On se souviendra, par exemple, du discours tout à fait inacceptable prononcé par Adil Sharkawi durant la manifestation du 28 octobre 2023. Seulement, à ce point-ci, toute personne qui comprend un peu les mouvements sociaux montréalais sait que l'homme est une espèce de patate chaude opportuniste qui émerge chaque fois qu'il y a de l'action pour faire déraper le dialogue public. Personne de sérieux ne le considère comme une voix rassembleuse. Par ailleurs, les coups de feu contre 2 écoles juives de Côte-des-Neiges ont choqué la ville en novembre 2023. L'affaire a éveillé les craintes des parents, et à juste titre. Notons que des mois plus tard, aucune information ne permet d'établir l'identité ou les motifs des responsables de ces crimes haineux. Depuis l'automne 2023, on n'a pratiquement pas entendu parler dans les médias de la mairesse de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasuki-Katawa. Si la réponse de son équipe aux attaques commises dans son arrondissement avait été complètement dépourvue de sensibilité, son nom serait partout. le travail consistant à rassurer les communautés et à faire baisser la tension dans nos quartiers se fait loin des projecteurs, c'est par ce qui ne fait pas la nouvelle, parfois, qu'on peut comprendre que, même si la situation est loin d'être facile, les choses pourraient aller beaucoup, beaucoup plus mal. Finalement, durant ces presque 7 mois d'une guerre qui met bien des gens d'ici sur les nerfs, le service de police de la ville de Montréal, SPVM, n'a presque pas fait les manchettes. Non pas parce que la police est inactive, mais parce que des choix ont été faits, jusqu'à présent, sur la manière d'intervenir dans les manifestations et de répondre aux plaintes pour discours haineux antisémites, anti-palestiniens ou islamophobes. Quand on ne parle pratiquement pas du SPVM, bien qu'on marche à Montréal semaine après semaine, c'est que, là aussi, ça pourrait aller beaucoup plus mal que ça ne va jusqu'à présent. Cette relative paix sociale montréalaise qui subsiste malgré tout dans le contexte, j'insiste sur le mot « relative », elle est précieuse et très fragile. Les décisions du SPVM, de nos tribunaux et de l'administration de l'Université McGill cette semaine pourraient nous rapprocher du niveau de tension qui mine la plupart des grandes villes nord-américaines. Aujourd'hui, Montréal peut décider d'asseoir fièrement sa différence ou de l'effacer. La métropole peut se rapprocher de Toronto ou de New York ou faire les choses à sa manière. Dans les jours, voire les heures qui suivent, son leadership choisira. C'était « Paix sociale à la Montréalaise », un texte d'Émilie Nicolas, paru le 2 mai 2024 dans Le Devoir.
Le vieux subsiste. Un texte de Gilles Archambault, paru le 5 février 2024 dans avenue.ca. Peu de choses m'énervent autant que l'adulation que l'on a pour les vieillards, ou la condescendance dont on fait montre à leur égard. Je ne souhaite évidemment aucun mal au vieux débris dont je suis depuis trop longtemps. Je souhaiterais tout bonnement qu'on cesse de les tenir pour des êtres à plaindre, ou, pire encore, pour des phénomènes. J'ai 90 ans depuis quelques mois. Il convient que j'ai une petite maladie. Apprenez qu'il s'agit d'un cancer de la prostate. À ce qu'il paraît, c'est un cancer dont l'action est lente. On verra. Il n'est pas étonnant non plus que mes jambes demandent grâce. Elles finiront bien par m'indiquer que le recours au déambulateur s'impose. Là encore, du calme. Pas de panique. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai cru bon de me défaire de ma discothèque. 6 000 CD. Peu de temps après, j'ai fortement élagué ma bibliothèque, dont pourtant j'étais assez fier. Pour moi, une sorte de préparation à la mort. Je ne m'attendais pas à cet entêtement de la vie à mon endroit, persuadé plus souvent qu'il n'était raisonnable que l'aventure avait assez duré. Je m'empresse de dire que dans mon cas, le mot « aventure » est exagéré. J'avais bien pris certaines décisions au cours de ma vie, mais très souvent, je m'étais laissé porter par l'air du temps. Affecté de cette longévité dont Ambrose Bierce dit dans son « Dictionnaire du diable » qu'elle était « la prolongation inconfortable de la peur de la mort », je continue à ne pas trop la craindre, celle-là. Est-ce parce que j'ai toujours eu un enthousiasme relatif par rapport à l'existence? Cela est possible. Il me semblerait plutôt qu'en même temps que me devenait plus difficile, le simple fait de marcher disparaissait petit à petit en moi cette possibilité d'émerveillement qui m'avait habité jadis. Que restait-il de la curiosité intellectuelle qui animait le fils de petit fonctionnaire que j'étais, qui, vers 1950, allait à la librairie tranquille, rue Sainte-Catherine, se procurer des livres en solde? Je ne le savais que trop bien. J'étais devenu un vieil homme qui écoulait ses journées à relire des pages aimées, à réécouter des centaines de fois des solos de Lester Young ou de Ben Webster. Fini le temps des petits voyages à Montparnasse, des muscadets à la terrasse d'un café de la rue de la Gaîté ou des tartiflettes rue Mouffetard. On vous le répète à satiété. Vous avez eu de la chance de les connaître, ces ersatz. Vous en convenez sans difficulté. Il n'est toutefois pas nécessaire d'insister. Vous avez compris que la récréation est terminée. Il vous est doux d'entendre que vos livres vont vous survivre, mais vous ne le croyez en rien. Vous vous contentez de sourire. Pourquoi risquer de déplaire? À des amis très chers, il vous en reste, vous avouez certains soirs que votre reliquat de vie pourrait se dérouler dans des conditions nettement plus affreuses. L'actualité vous en propose de multiples. Il y a les guerres, les catastrophes, les migrations forcées. Vous savez que vous êtes peinard au fond. Bien sûr, il y a la bêtise de plus en plus agressive en Occident, le règne du moralisme primaire, l'inculture généralisée. Quand vous pouviez encore sortir à volonté de votre appart, vous constatiez à quel point certaines librairies pouvaient devenir infréquentables, peuplées qu'elles étaient de non-livres. Du moins, l'estimiez-vous. En douce, vous deveniez conservateur. Je ne m'étonne plus depuis longtemps de l'esprit de tolérance qui, de plus en plus souvent, m'habite. Très souvent, je me rends compte qu'il ne s'agit pas en réalité d'une acceptation, mais plutôt de la manifestation d'un « à quoi bon ». On me dit parfois que je fais montre de sagesse. Je laisse dire, mais je n'en crois rien. Je suis parvenu à un stade de ma vie où j'ai le temps de m'analyser. Je ne suis pas toujours fier du résultat de mes analyses. Assis dans un fauteuil que je ne quitte plus que rarement, je suis devenu le spectateur de ma non-vie. Il m'arrive de me trouver pitoyable, rarement au point, toutefois, de ne pas m'amuser à mes dépens. Certains jours, je m'étonne de déraisonner. À d'autres, je me félicite d'une réaction que j'ai eue. Allez y comprendre quelque chose. C'était « Le vieux subsiste ». Un texte de Gilles Archambault, paru le 5 février 2024 dans avenue.ca.